On va donc parler avec nos trois auteurs restants, parce qu'on en a quand même trois, donc on va en profiter, avant qu'eux-mêmes ne regagnent leurs cieux d'origine, pour évoquer donc ce sujet sur distraire, amuser, raconter, des créateurs d'univers, des créateurs d'histoire également, des gens qui nous emmènent loin, qui nous emmènent ailleurs, qui nous font vibrer, qui nous font rire parfois, qui nous effraient, qui nous interrogent aussi, tout ça n'étant pas forcément contradictoire. Brice Tarvel, vous êtes un touche-à-tout. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Est-ce que le mot, est-ce que l'expression vous convient?
Tout ce que j'ai le droit de toucher, oui.
Quand vous voyez ce sujet sur lequel on parle, distraire, amuser, raconter, vous vous reconnaissez dans ce triptyque?
Distraire, oui, ça me semble prioritaire en tant que lecteur et comme auteur, parce que tout passe derrière la distraction, beaucoup plus facilement.
Y compris quand on parle de sujets sérieux ou un peu plus graves?
Ouais, une histoire est toujours plus intéressante avec de l'humour, c'est pas moi qui l'a dit, c'est bien connu. Et je pense souvent à distiller de l'humour, même quand on traite d'un sujet dramatique. On peut toujours trouver une petite touche pour détendre l'atmosphère.
Ah oui, parce que moi j'ai une petite pensée pour le bal des iguanes, par exemple, où on est dans un univers assez particulier, puisqu'on est dans une maison de retraite,
oui.
Qui est une antichambre de l'enfer. Je vous le dis franchement, c'est juste horrible, cet endroit.
C'est bien spécial, oui.
Non seulement ils sont insupportables, mais ils sont dangereux.
Oui, oui. Sans parler de l'incontinence et des tas de choses.
Vous arrivez à nous faire rire avec ça? J'espère. En tout cas, moi, j'ai ri.
Je suis désolé.
Comment on travaille sur un sujet comme celui-là, justement, où on est dans un thriller fantastique, on est dans une ambiance très sombre, très noire?
Oh, ben, on se transporte, on devient un vieillard qui rentre en maison de retraite, et on extrapole, on imagine, on développe et on essaye d'être original, de distiller des choses qui fassent que ce ne soit pas un récit ordinaire. Et puis en plus, le but, c'était de faire un thriller avec une connotation fantastique, des personnages un peu bizarroïdes. Voilà, donc moi, de toute façon, quand j'écris, j'improvise. Donc j'ai ces ingrédients dans ma tête et puis voilà, quoi. Et après, une fois que j'ai écrit ça, je suis bon pour aller à la maison de retraite, je sais ce que c'est.
Je ne doute pas que vous ne dépareriez pas dans cet aéropage.
Oui, non, je ne suis pas si pire qu'eux quand même. Pas encore.
Camille Brissot, on va s'intéresser aussi à votre univers si particulier que vous complétez aujourd'hui avec Vagabond Désert après Dresseur de Fantômes. Avec aussi la particularité que vous vous adressez peut-être à un public un peu plus jeune, même si ce n'est pas uniquement du roman jeunesse.
Non, ce n'est pas tout à fait du jeunesse. Alors, en fait, le premier roman de cet univers-là, Dresseur de fantômes, est sorti dans la collection classique de La Talente. Et en fait, c'est simplement, je crois que ce sont les représentants qui ont demandé à ce que ce soit placé dans quelque chose qui soit plus young adult, cette étiquette qui était en train de se créer. Et c'est pour ça que le deuxième, du coup, bénéficie de cette étiquette. Mais il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. De toute façon, quand j'écris, je ne me pose jamais la question de savoir si ça va être jeunesse ou pas. Enfin, ça sort et après, c'est l'éditeur qui classifie ça. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, à me positionner par rapport à ça. Mais je pense qu'il n'est pas plus jeunesse que le précédent. Hormis le fait qu'il, par contre, on parle, les héros là sont deux adolescents qui sont un peu paumés dans un monde complètement bouleversé et qui vont essayer un peu de trouver leur place là-dedans. Voilà.
Le divertissement chez vous, il vient beaucoup de l'univers que vous créez et oui. Dans lequel vous nous emmenez. C'est quelque chose de très personnel ce que vous nous proposez.
Oui, c'est un peu personnel, c'est une espèce de patchwork d'influence. En fait, j'ai écrit d'autres romans jeunesse, cette fois vraiment jeunesse, chez Rajo, et qui ne sont pas exactement joyeux. qui parle de deuil, de maladie, de choses comme ça. Et je pense que j'avais besoin de partir sur un univers un peu plus coloré. Je pense que c'est le mot qui décrit peut-être ce plus hétéroclite et coloré, on va dire. Quelque chose où je puisse un peu marrer en cousant un peu ensemble tout un tas d'images qui me venaient, que ce soit par exemple des Indiens d'Amérique avec du vaudou dans les Caraïbes, avec un cirque volant, tout un tas voilà, d'images bon, qui étaient pour moi très visuelles et que je voulais assembler. Et ce type d'univers-là, pour le coup, me paraît sans doute me permet sans doute de donner de la cohésion à quelque chose qui, à première vue, peut peut-être paraître un peu décousu.
Et on va évidemment y revenir tout au long de cette heure. Loïc Henry, un peu la même question finalement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette espèce de devise qu'on nous propose sur ce café littéraire?
Alors en fait, ça va un petit peu dépendre des verbes. Raconter, oui, mais là, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Hein. On cherche tous, on est tous des conteurs hein, avant tout. L'idée, c'est pas de rester dans une simple description d'un monde, que ce monde soit un monde dans l'avenir ou un monde fantastique ou un monde féerique. C'est vraiment de raconter des histoires. Donc je pense que là, tous les auteurs des Imaginales s'y retrouvent. Distraire, bien évidemment. On essaie de quelque part de faire décoller le lecteur, de l'emmener vers du merveilleux, vers aussi de le quelque part de le prendre à contre-pied, à la fois de par les sujets qui sont abordés, mais également aussi on a une petite logique de contre-pied. Enfin moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas sur Loire, c'est-à-dire que on crée, enfin moi en tout cas je crée des puzzles où le lecteur j'essaie de le perdre un petit peu, de l'emmener quelque part pour pouvoir ensuite l'envoyer complètement de l'autre côté avec une succession de rebondissements, d'intrigues et ainsi de suite. Alors sur le dernier amuser, bon là j'adorerais vous dire que Loire est un roman désopilant, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc voilà, c'est plus des intrigues, il y a des thèmes, c'est de l'aventure, c'est des émotions, c'est des thèmes comme la génétique, la géopolitique, ainsi de suite, mais c'est pas vraiment amusant stricto sensu, malheureusement.
Alors c'est intéressant parce que je vous ai posé la question comme ça sans rien préciser et vous m'avez tous répondu plus ou moins par rapport au lecteur. Mais moi j'aimerais savoir maintenant si vous vous reconnaissez vous en tant qu'auteur dans ce triptyque, c'est-à-dire est-ce que finalement quand vous écrivez, est-ce qu'il y a aussi une part de distraction, d'amusement qui intervient? Est-ce que finalement vous devez vous amuser quand vous écrivez Brice Tarvel?
Oui, forcément, il y a des jeux de mots qui arrivent, comme dans la vie, qu'on peut placer dans l'histoire. Ça peut être intéressant, ça peut même faire changer le sens de l'histoire quelque peu. Oui, pourquoi se priver? Et puis, ça peut même être dans les descriptions, dans les ambiances. Je sais pas, c'est quelque chose qui flotte et qu'on saisit.
C'est un plaisir contagieux.
Je suis tout seul en général quand j'écris. Donc,
mais qui peut s'étendre au lecteur, du coup.
Le chien, il s'en fout. Donc, il y a une petite jouissance quand on a une trouvaille, qu'elle soit humoristique ou autre, mais même humoristique, il y a une petite satisfaction. On se dit, c'est bien trouvé ça. Puis deux jours après, on dit, oh, c'est un peu con. Bon. C'est pas toujours le cas, des fois ça, c'est valable.
Camille Brissot, est-ce que vous, par exemple, vous rêvez de monter dans l'aéroclub, dans l'aérocircus?
Ouais, ça j'aimerais bien. Après, est-ce que l'écriture pour moi c'est pas vraiment une distraction ou un amusement? Je vais le décomposer en deux parts. La partie où justement on imagine, où toutes les images viennent, où tout cette espèce de moment où les pièces du puzzle s'assemblent toutes les unes avec les autres est assez magique. Donc là, le moment, oui, je pense à l'aérocircus qui est en fait une flottille de dirigeables, de ballons, de montgolfières, etc., qui forment en fait un cirque ambulant. Là, forcément, je m'amuse vraiment beaucoup. Au moment où, par contre, je dois l'écrire, là, c'est autre chose. Pour moi, c'est presque une petite torture. Déjà, parce que je suis extrêmement flemmarde, donc c'est du boulot, quoi. Il faut y aller. C'est compliqué, il y a plein de distractions, donc voilà. Il faut se forcer à y aller. Et c'est compliqué, une fois qu'on a une image très précise en fait en tête, de la faire ressortir de la manière dont on souhaiterait qu'elle soit perçue par le lecteur. Et moi, ça, je suis souvent assez frustrée justement là-dessus. Donc, c'est pas toujours un grand plaisir, l'écriture.
Loïc, est-ce qu'on s'amuse à, Raconter des choses pas désopilantes.
Alors, est-ce qu'on pleure en racontant des choses pas désopilantes? C'est la question.
Non, est-ce qu'on s'amuse, j'ai dit. S'amuse
non, disons que moi, je ressens pas le... Je pense que je vais être assez proche de Camille, en tout cas sur la première partie. C'est-à-dire, je ressens pas l'écriture comme un amusement ou une distraction. C'est plus un besoin, en fait. C'est-à-dire que il y a ces mondes qu'en tant qu'auteur, vous créez, mais quelque part, s'impose aussi à vous. C'est-à-dire que il y a toujours une genèse, c'est-à-dire ça, vous n'avez pas du jour au lendemain, en l'espace d'un claquement de doigts, un monde qui s'est créé, à l'intérieur duquel vous allez faire évoluer des personnages, sur lequel vous allez bâtir un récit. Vous avez d'abord une première image de ce monde qui se développe, que vous faites croître, mais qui croît d'elle-même, enfin, un monde qui croît de lui-même. Et ensuite, vous pouvez... j'ai envie de dire vous balader dans ce monde, mais c'est pas en soi. Moi, je ressens pas l'écriture comme une distraction ou un amusement. C'est plus une envie ou un besoin qu'une véritable distraction. C'est-à-dire que, comme Camille, ça demande un certain effort. C'est-à-dire que c'est quelque chose que, qu'en tant qu'auteur, moi j'ai en moi et que j'ai envie de faire sortir en fait quelque part. C'est pas une souffrance non plus, mais en tout cas c'est un besoin, c'est une envie. C'est une satisfaction, c'est un travail, mais je ne qualifierais pas ça d'amusement en tant que tel.
Revenons sur le mot raconter, qui est quand même finalement peut-être, comme vous le disiez tous les trois, un peu le mot-clé de tout cela. Quand vous racontez une histoire, Brisson a commencé avec vous, quand vous racontez une histoire, vous l'avez dit, vous improvisez, mais est-ce que finalement... c'est une histoire qui pourrait être assez proche de ce que vous auriez envie de lire, par exemple?
Oh bah bien sûr, je subis l'influence de tout ce que j'ai lu et ça fait pas mal de choses, c'est une somme. Et donc après, j'ai digéré tout ça et j'ai créé mon propre univers, mon propre style, avec tous ces jajous qu'on ne peut plus déceler maintenant. Moi, je les sais. Je sais, tiens, ça, c'est tel auteur qui m'a inspiré à cette chose, mais c'est complètement remodelé. Et qu'est-ce qu'on disait avant?
Sur le plaisir de raconter, est-ce que finalement c'est aussi oui. Le partage d'une histoire que vous auriez aimé lire
On est le premier lecteur, forcément, et raconter pour moi c'est un peu comme une maladie. On s'installe et puis comme l'araignée tisse son fil pour faire une toile, on fait pareil tous les jours, à peu près aux mêmes heures, et ça forme une toile plus ou moins...
C'est une souffrance pour vous aussi, comme vos deux petits camarades?
Non, pas trop. Pas trop. C'est du travail, oui. Il faut gérer tout ça. Surtout que moi, je fais tout en même temps, puisque je commence en cherchant un titre, et après, j'improvise les noms de personnages, l'univers, les actions. Et c'est comme fabriquer un bonhomme de neige. On commence par une petite boule, on la fait rouler dans la neige, et ça devient énorme, c'est lourd à charrier, et il faut se rappeler des choses aussi bêtes. Tiens, il a un pull jaune, maintenant il est devenu rose. Voilà, c'est des petites choses que c'est dur. Il faudrait avoir tout en tête, comme un acteur de théâtre qui apprend tout son texte. Il faudrait avoir tout en tête de tout ce qu'on a écrit. Donc plus on est loin dans l'histoire, plus il y a une somme avant qu'il ne faut pas oublier. Bon, après il y a la relecture, on peut corriger des choses. Mais c'est sûr que c'est pas simple, c'est une gestion.
Camille Brisseau, donc raconter une histoire, c'est là aussi, c'est, vous le disiez, c'est une somme d'influence, donc forcément ouais. Il y a aussi des choses que vous auriez envie de lire ou envie de retrouver.
Oui, complètement. Alors après, il faut savoir, dans mon cas en tout cas, j'ai pas toujours écrit des romans qui faisaient partie du type de lecture que j'avais l'habitude d'avoir. J'écris aussi des romans, par exemple, style plus romance adolescente, et je déteste dire ça, mais c'est simplement que l'histoire était là, donc voilà, il fallait l'écrire. Et là, du coup, c'est vrai que se retrouver parfois à un univers qui est vraiment plus personnel, dans le style justement de celui de Dresseur de fantômes et Vagabond désert, moi je pense que c'est aussi pour ça que je suis en plus partie sur un autre roman dans le même univers, c'est qu'il m'a plu, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait d'autres choses à creuser, j'ai eu envie d'aller plus loin et je me suis aperçue que je m'étais un peu laissée prendre à mon propre jeu, en fait en semant des pistes un peu inconsciemment, et après on s'arrête, on les examine et on se dit ah, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et on peut partir un peu plus loin, creuser un peu tout ça, et là oui c'est sûr que j'ai travaillé sur quelque chose que en tant que lectrice j'aurais aimé avoir.
Avec, vous l'avez dit, des influences. Est-ce qu'on peut en parler de ces influences?
Ah, complètement. Donc c'est un monde post-apocalyptique qui a été bouleversé par tout un tas de changements climatiques, ce qui me permet de manière très très astucieuse de déplacer les pays, de changer les courants, etc. Et donc de ne pas du tout m'embarrasser de lois géographiques et autres. Donc pas de renseignements, rien d'autre. Et en fait, il y a une caractéristique qui, je pense, est assez principale là-dedans, c'est que l'électricité a disparu d'une partie du monde, notamment des airs. Plus d'avions, c'est la fin. Donc on revient à une autre forme de transport plus lente, notamment le maritime, etc. Et là, pour le coup, ben, la disparition de l'électricité, c'est clairement Ravage de Barjavel qui m'a inspiré là-dessus. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais ado. Ça a été une de mes premières claques de science-fiction. Et je voulais vraiment repartir sur cette idée de qu'est-ce qui se passe une fois qu'il n'y a plus d'électricité, puisqu'on en est extrêmement dépendant, comment on se réorganise, et voilà.
Loïc, vous aussi, alors racontez, qu'est-ce que le mot vous inspire?
Je voudrais rebondir, en fait, c'est vrai que sur ces deux choses-là, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites par mes petits camarades.
Mais je vous en prie.
Notamment sur l'improvisation, c'est-à-dire que, quelque part... Je pense que les auteurs fonctionnent différemment. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des auteurs qui se laissent guider, qui se laissent presque, j'ai envie de dire, entraîner par leur personnage, par leur monde. Donc j'ai l'impression que c'est un peu votre cas. Et puis au contraire, il y a des auteurs qui... au contraire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des auteurs dont je fais plus partie, peut-être, qui ont besoin d'avoir une structure qui est déjà très très présente avant même d'écrire le premier mot. C'est-à-dire d'avoir une vision très très claire du monde dans lequel les personnages ont évolué, de ces personnages eux-mêmes, et puis même de l'histoire. C'est-à-dire que pour Loar, notamment, quand j'ai écrit Loar, à un chapitre près, je savais qu'il y en aurait 72. Je savais que comment ça se terminerait les chutes. Les chapitres n'ont pas été forcément écrits dans un ordre chronologique. C'est mon premier chapitre, c'est le chapitre 5 en l'occurrence. Donc c'est vrai que je pense que pour le coup il y a des différences assez marquées entre les auteurs, et c'est assez intéressant de voir justement que ces auteurs qui finalement écrivent dans des genres assez proches ou même très proches ont un mode de fonctionnement qui est complètement différent.
Et il n'y a pas de règle.
La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et en fait le point de Camille aussi est assez intéressant parce que alors bon, personnellement moi j'écris plutôt des choses aussi que j'aime lire, mais ces personnages, quelque part on est tous un peu schizophréniques parce qu'on se glisse, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres auteurs, on se glisse dans la peau de ces personnages. Alors certains sont très proches, certains sont même presque autobiographiques, mais d'autres sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire que moi, quand je fais interagir une personne qui est au crépuscule de sa vie ou une jeune adolescente de 16 ans, bon, c'est pas vraiment autobiographique. Et c'est vrai que c'est extrêmement jouissif de pouvoir prendre tous ces rôles, de tous ces personnages, les faire évoluer et d'essayer de se mettre dans leur peau avec des contraintes qui ne sont pas les vôtres, des envies qui ne sont pas les vôtres, un passé qui n'est pas le vôtre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement... pour le coup, extrêmement plaisant et presque distrayant.
Brice, vous, je le disais, vous êtes un auteur qui a touché à beaucoup de genres différents, dans les genres d'imaginaire, même au-delà, je crois.
Je suis un lecteur qui lit des choses très diverses et ça se reproduit dans mon écriture. J'aime bien passer d'un genre très différent. Je suis lecteur de Philippe K. Dick, mais aussi de Georges Simenon, donc c'est très, très varié.
Donc là aussi, on peut imaginer que ces influences très diverses font que vous passez de l'un à l'autre avec à chaque fois le même plaisir.
Oui, je fonctionne toujours à peu près pareil, quelle que soit la catégorie de récit, de lecteur à qui je m'adresse. Je travaille comme un petit artisan, j'essaie de faire au mieux, de profiter de la petite expérience que j'ai fini par posséder, et non, il n'y a pas de souci.
Là, par exemple, on a devant nous Laure et la Toise. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né ce roman?
J'ai eu l'idée du thème général, c'est-à-dire un double sortilège qui frappe un royaume, au nord tout rétréci et au sud tout grandi, ou l'inverse, je ne sais plus. Et j'avais donc ce sujet-là en tête, quand même, parce que j'ai pas toujours le sujet quand je démarre. J'ai le titre, mais pas toujours le sujet. là, j'avais cette idée-là, et avec un groupe de truands, genre personnage de Sergio Leone, qui vont dérober un trésor dans la partie du royaume où tout rétrécit pour l'emmener au sud, au nord, pour le faire fructifier, ce qui se pratique beaucoup d'ailleurs en dehors de la fiction.
Oui, comme une allégorie.
Oui, oui, un peu, voilà. Donc j'avais cette idée-là au départ. Après, il fallait en faire quelque chose. Et en général, je ne connais pas la fin, moi, de mes histoires. Je ne sais pas comment ça se termine. Et ça me plaît bien de ne pas savoir, parce que c'est un moteur, parce que je veux un peu savoir, quand même.
Ça fait vraiment de vous le premier lecteur, comme vous disiez tout
à l'heure. Oui.
Camille, même questionnement, finalement. Voilà, est-ce que cet univers si particulier, vous l'avez dit, vous avez eu envie de le creuser un petit peu. Est-ce que c'est lié, par exemple, aussi au retour que vous avez pu avoir sur Dresseur de fantômes?
Pas entièrement. Disons que l'idée a... En fait, c'est un roman, Dresseur de fantômes, qui est le premier de la série. C'est un roman que j'ai écrit, je pense, il y a près de 5 ans. Et qui a suivi des méandres éditoriaux assez compliqués, et qui a donc mis du temps avant d'arriver sur les étals des librairies. Et donc, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui pouvait aller à la suite. Et c'est vrai que ça allait très vite quand il est sorti. J'en ai parlé très rapidement avec mon éditrice en disant j'ai peut-être une autre idée là-dedans. Et elle m'a demandé de me lancer directement en me disant bon, bah, dans 4 mois, ce serait bien que tu le rendes. C'est la première fois que j'avais eu un délai de ma vie aussi court, donc ça a été très compliqué pour l'écrire. J'ai dû me lever le matin, ce qui, pour moi, est terrible. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu les retours des lecteurs à ce moment-là. Mais j'étais plutôt contente, parce que ce qui est ressorti donc, des lecteurs du premier tome, c'est qu'il y avait une espèce de curiosité sur ce lieu du cirque aérien. Et coup de chance, c'était quasiment le décor principal de Vagabond Désert. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer comme ça.
Et là, l'idée, c'est encore peut-être de poursuivre l'aventure, ou est-ce que...
Je l'envisage, c'est pas encore très fouillé.
Sans forcément que ça soit toujours dans les mêmes, dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux.
Pas du tout,
ouais.
Mais voilà. En fait, ce que j'aime bien là, je suis pas une auteure de série, parce que je suis déjà pas très disciplinée et j'écris pas très vite. Donc pour moi, un roman, ça peut être 6 ou 8 mois, et me dire de me lancer sur une série sur plusieurs années, ça me décourage d'avance. Et là, j'aime bien l'idée de garder un univers et de partir sur des histoires complètement différentes avec des personnages différents. Je trouve qu'on est un petit peu plus libre en termes de projection. Et là, du coup, comme ça s'est bien passé pour l'écriture de ce deuxième livre, effectivement, je me verrais bien partir encore sur un troisième personnage qu'on évoque à peine dedans. Et j'ai aucune idée de l'histoire encore. J'ai simplement le personnage qui, pour ceux qui l'ont peut-être lu, ce serait le personnage de Pic. Mais c'est encore très, très, très flou. Peut-être l'année prochaine en termes d'écriture, pas avant.
Loïc, si je ne dis pas de bêtises, Loire a eu le prix Imaginal des lycéens, c'est ça ?
Oui, l'année dernière.
L'année dernière. Je parlais des retours de lecteurs. J'imagine que suite à ce prix, vous avez dû en avoir aussi quelques-uns.
Oui, j'ai eu quelques retours. Alors en fait, j'ai un peu pris une claque l'année dernière, justement, parce que donc Loire, c'est pas du tout un roman jeunesse ou young adult, c'est vraiment connoté adulte. C'est une histoire qui est quand même assez dense, qui est assez complexe dans le sens où elle fonctionne un peu sur un mode de puzzle. Et quand on m'a annoncé que Loire était nominée pour le prix des lycéens, je me suis dit il y a une erreur de casting. En fait, il y a un problème. Donc je me suis pas vraiment intéressé. J'ai attendu et on m'a appris qu'il était en effet qu'il avait gagné le prix. Et là, je suis un peu tombé de ma chaise et ça m'a quelque part contraint à réfléchir et à me reprojeter quelques années en arrière et de me dire oui, mais en fait, quand on est lycéen, finalement, donc je rejoins un peu Camille là-dessus, mais quand on est lycéen, quand on était tous lycéens, on lisait des romans d'adultes en vérité, même collégiens. Hein, c'est-à-dire que. Et il y a eu parallèlement, un peu par coïncidence, il se trouve que j'ai 3 filles, et dont une qui aime bien les livres, je croise les doigts, et qui s'est mise à dévorer du Boris Vian en entrant à peine en collège. Et je me suis dit, oui, ok, c'est super. En fait, on peut avoir une lecture déjà différente suivant les âges. Et en fait, je pense que moi, ça m'a permis d'être en contact avec peut-être un public qui n'aurait pas forcément été le public, j'ai envie de dire, naturel, natif de Loire. Et les quelques jours que j'avais passés donc, à Épinal en 2014, c'était une énorme bouffée d'air, une énorme bouffée d'oxygène. Je suis reparti avec des envies d'écriture galvanisée à nouveau, et ça m'a vraiment énormément plu. J'étais très ému en plus, et ça m'a reboosté pour les quelques décennies à venir, on va dire. J'espère, je croise les doigts à nouveau.
Et par rapport à notre thématique, justement, les retours que vous pouvez avoir, c'est que les lecteurs, y compris d'ailleurs les lycéens, mais ça peut être aussi les lecteurs adultes, ils ont trouvé ce côté divertissant. Alors on l'a bien compris, divertissant avec du fond. Hein.
Disons que moi, ce qui m'a le plus étonné dans les retours, que ce soit des lycéens, des adultes, des hommes, des femmes, des gens âgés, jeunes, quel que soit l'endroit, c'est en fait la diversité des retours. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient vous voir, qui vous dit « Ah là là, cet aspect-là du roman m'a plu. » J'ai dit « Ok, très bien. » Et c'était pas forcément un aspect qui me paraissait fondamental dans le roman, mais bon, je prends. Hein. Très bien. Et puis, vous avez une autre personne qui va vous dire autre chose sur un aspect qui est complètement différent et qui vous paraît pas non plus fondamental. Et en fait, les retours sont incroyablement divers. Quand on écrit, j'imagine que c'est le cas un petit peu tout le monde, on s'imagine que ce qui va happer le lecteur, enfin on espère en tout cas, ce qui va l'intéresser, ce qui va le choquer, ce qui va l'interpeller, on voit un petit peu les points. Et en fait, alors parfois ça fonctionne comme ça, mais moi j'ai eu des retours sur des choses qui me paraissaient, entre guillemets, relativement, j'ai envie de dire mineur, mais qui aux yeux de tel lecteur l'était pas du tout. Et encore une fois, ce qui m'a vraiment vraiment surpris, c'est l'hétérogénéité des retours et la richesse d'ailleurs des retours, des personnages qui moi me paraissaient, je dirais pas de second ordre, mais pas forcément des personnages principaux, mais qui ont vraiment interpellé certains lecteurs. Donc c'est le fait d'avoir une discussion, en fait, quand on est dans ce type de salon, on a deux types de discussions. C'est les gens qui viennent acheter votre livre, donc là on est content évidemment, hein, puisqu'on a un nouveau lecteur, et c'est quand même un petit peu pour ça qu'on écrit, on est un peu égocentrique là-dessus tous. À l'inverse, on a des gens qui ont déjà lu votre livre et qui viennent le faire dédicacer. Et là, c'est très très riche, c'est très très intéressant, puisqu'on peut en parler un petit peu, on a un retour, puisqu'on a écrit ça tous dans notre grotte un peu tout seul. Et ça permet justement, on a cette bouteille à la mer qu'on a achetée à un moment donné, d'avoir les retours sur les aventures de cette bouteille.
Brice Tarvel, parmi les cordes qu'il y a à votre arc, il y a la bande dessinée aussi.
Oui.
C'est une manière de fonctionner très différente quand on est scénariste de bande dessinée par rapport à un roman.
C'est pareil, j'improvise, sauf qu'il y a des contingences. Par exemple, il faut tant cette image par page, il faut un album de 46 planches, il ne faut pas dépasser, il faut que le rythme soit bien réparti sur tout le récit. Donc ça, c'est des contraintes différentes. Mais il y a l'avantage, c'est que je parlais de tout ce qu'il faut se souvenir dans le récit quand il est en cours. Et dans la BD, on revient vite en arrière, dire « Ah oui, j'avais dit ça, il fait ça, il est habillé comme ça. » Donc là, ça va très vite. Tandis que quand c'est un bouquin de 400-500 pages qu'il faut rechercher, là, c'est plus difficile.
Qu'il dit de vous. Quand d'un seul coup, on recherche une idée thématique et qu'on se dit « Où est-ce que j'ai lu ça déjà ?»
Et puis, il faut toujours avoir présent à l'esprit que c'est fait pour être dessiné. Donc, il faut que le dessinateur trouve son content, qu'il ait quelque chose d'intéressant à dessiner. En plus, souvent, au départ, on lui demande « Tu aimes bien dessiner les chevaux, les voitures les... ?» Donc, ça peut aussi modifier un peu l'histoire.
Il y a un échange, au-delà de ça encore, entre vous. Est-ce que, parce que là, donc, quand on vous écoute, en gros, vous écrivez d'abord le scénario, puis vous le soumettez au dessinateur.
Oui. J'écris souvent, on réclame un synopsis, c'est pour rassurer l'éditeur. Et ensuite, on fait les 3-4 premières pages. Donc, je découpe les 3-4 premières pages, souvent en ne sachant pas ce que je ferai après. Le dessinateur dessine les 3-4 premières planches, et après, c'est envoyé à l'éditeur, qui décide s'il prend ou pas. Et si le contrat est signé, il faut continuer. Il faut continuer l'histoire. Je me suis retrouvé des fois dans des situations où... je ne savais pas ce que j'allais faire de tel personnage, histoire, comment elle allait se goupiller, alors que le dessinateur avait déjà écrit 20 pages qui étaient en craie, il y avait même un coloriste qui était dessus, donc c'est un peu angoissant si on y pense. Mais bon, ça s'est toujours bien passé.
Et du coup, c'est un travail moins solitaire que ce que viennent d'exposer, en particulier Loïc.
Souvent, le dessinateur et le scénariste, ils habitent rarement l'un près de l'autre, donc ça se passe par téléphone, par courrier, par internet maintenant. Il n'y a pas beaucoup de rencontres. On reste quand même solitaire.
Camille Brissot, cet univers qui est le vôtre, on l'a dit, mélange pas mal de genres finalement, mélange aussi pas mal d'influences, beaucoup d'auteurs anglo-saxons aussi, non ? Ou c'est une impression que j'ai moi en tant que lecteur ?
C'est sans doute une impression. On m'a dit aussi qu'il y avait des influences à la Jules Verne. Je dois avouer que j'en ai eu un seul de Jules Verne.
C'est les ballons ça qui font ça.
Ouais, donc j'ai dit, ah ouais, mais bien sûr, ça vient bien sûr de Jules Verne. Je me suis
si je vous dis Herbert George Wells, par exemple.
Je me suis un peu sentie comme une imposture à ce moment-là, mais bon, c'était des jolis noms, donc ça allait. Après,
c'est honnête de le reconnaître.
Oui, je le reconnais là, ça va, il n'y a pas 200 personnes, donc je me dis, d'autres le penseront peut-être encore.
Mais il y a le podcast.
Ouais, bon.
Oups.
Oups. Non, pas trop de... Si, un auteur anglo-saxon. C'est paradoxal parce que l'influence est très légère, c'est Mark Twain, sur le côté un peu, une vision un peu...
Ça se sentait surtout sur Dresseur de fantômes.
Ouais, une vision peut-être un peu au pastel de l'Amérique, mais que j'aime bien.
Et puis c'était peut-être le bateau à aube aussi qui donnait cette impression.
Carrément, le bateau à aube, parce qu'il y a également un des autres lieux, c'est un gigantesque bateau à aube qui traverse l'Atlantique et qui relie en fait l'Europe à l'Amérique. Là aussi, scientifiquement, je ne sais pas si c'est possible, mais... Peu importe.
Tout est permis, on est dans l'imaginaire.
Exactement.
Loïc Henry, cette aventure avec Loire, on sent bien qu'elle vous a, changé un peu. Mais j'imagine qu'elle elle donne aussi des attentes particulières. Est-ce que on vous bouscule un peu plus qu'avant ?
Pas trop. Non, disons que...
Parce qu'on comprend bien que vous êtes... très cadré, que vous avez besoin quand même de prendre votre temps aussi.
Ouais, disons que je suis pas très rapide en tant qu'auteur en fait. J'écris lentement. Moi, je suis assez admiratif des auteurs qui arrivent à écrire quelque chose de très beau en écrivant très vite. Je regarde ça avec des grands yeux. Je dis ouais, c'est génial. Comment ils font ? Et moi, je suis assez lent en fait dans l'écriture. Je corrige très peu après, mais c'est vrai que je suis assez lent dans l'écriture. Alors après, là, je suis sur un autre roman qui est dans un autre, enfin qui a rien à voir avec Loire en l'occurrence. Je suis un peu moins psychopathe sur le deuxième, quoi, dans le sens où je me laisse un peu plus, je me fais peut-être un peu plus confiance. C'est aussi le fait que ce soit un premier roman qui était quand même assez complexe au niveau de l'intrigue qui à la fois peut-être je me disais oh, si je fais pas ça j'y arriverai pas, donc là sur le deuxième j'ai le fait d'avoir peut-être écrit Loire me fait croire, peut-être à tort hein, mais me fait croire que j'aurais plus de facilité à écrire le deuxième, en tout cas que j'arriverai au bout, ce qui n'était pas du tout quand j'ai commencé Loire j'avais vraiment aucune conviction sur le fait que je réussirais à arriver au bout. Donc voilà, maintenant c'est vrai que j'ai pas vraiment j'ai une petite contrainte de temps, mais qui est quand même beaucoup moins forte que celle de Camille. Si on m'avait dit ouais, il faut écrire un roman pendant 4 mois, je pense qu'on dit bon, on va commencer par appeler le SAMU et puis on verra ensuite.
Une nouvelle, ça vous dirait ?
Une nouvelle de 2 pages, on peut dire. Voilà, non, j'ai pas trop de pression, j'ai un peu le temps. En général, quand on discute de projets, je m'arrange pour, par rapport au temps que je pense mettre, avoir un tampon assez confortable derrière, au cas où je prendrai un peu plus de temps.
Brice, même question au niveau des contraintes, est-ce que il y a une certaine liberté
Ouais, je m'efforce d'avoir le maximum de liberté. Sinon, le rythme d'écriture, c'est à peu près 100 pages par mois. Mais tout compris, parce que moi, comme j'improvise, il y a la documentation, il y a tout qui arrive en même temps. Et donc, pour un roman de 250 pages, il faut 2 mois et quelques.
Oui, c'est très rapide par rapport à ce qu'on vient de nous expliquer.
Oh, très rapide. Non, je travaille directement sur l'ordinateur maintenant, parce que précédemment, j'écrivais à la main, au crayon de mine, sur des quarts de page, pour avoir des quarts d'angoisse. Et donc, l'oré-la-toile, je l'ai écrit comme ça.
Sur et des quarts de peur de page blanche.
Oui. L'oré-la-toile, je l'ai écrit comme ça, j'ai mis un an. Sur des quarts de page, il y en avait 500 au crayon de mine. Et j'ai mis un an. Et quand j'ai fait la suite, qui était un peu plus volumineux, là, je suis passé à l'ordinateur et j'ai mis 5 mois.
Voilà. Est-ce que vous avez des envies ou est-ce que encore une fois ça vient voilà comme ça vient
Ben, il faut que ça vienne. Je m'installe devant le truc, il faut que ça vienne. Je sais pas d'où ça vient. Ça devient un tour de main maintenant. En général, ça vient. Parce que pendant très longtemps, j'ai balancé à la corbeille des romans où j'avais écrit 150 pages et tout, puis j'étais à bout de souffle, déconcentré. Et maintenant, ça n'arrive plus. C'est très étrange.
Est-ce qu'il ne manque pas le mot rêver à côté de distraire, amuser, raconter dans notre sujet de table ronde
Tu peux me reformuler
Est-ce que la table ronde ne devrait pas s'appeler distraire, amuser, raconter, rêver
Oui. Alors, au départ, on rêve déjà. Hein. Et puis même après, à l'arrivée, on rêve encore. On rêve d'autre chose. On rêve dans ce qu'on écrira par la suite. On rêve... C'est très important de rêver, c'est l'hygiène de l'esprit. Donc oui, le rêve, c'est très important. Et il faut faire rêver les autres, c'est-à-dire il faut rendre ses rêves contagieux pour les lecteurs. Je dis, c'est une histoire de maladie, ça.
Camille, même question, le mot rêver, est-ce qu'il ne manque pas finalement à cette devise
Je pense qu'il est quand même assez connecté au mot de raconter et que quand on en raconte, forcément, on fait beaucoup appel à l'imagination et quelque part, l'inspiration, l'imagination, c'est une autre facette du rêve, peut-être un peu plus conscient, un peu plus accessible. Et donc forcément, ça me semble assez lié.
C'est un univers assez onirique, ouais. Le vôtre. On est un peu transporté finalement dans votre rêve, en tout cas celui que vous nous racontez.
Oui, oui, dans plein de bouts de rêve assemblés. Moi, ce qui me semblait important dans cet univers-là, c'était que ce soit un univers très visuel. Je voulais vraiment qu'il y ait des images qui restent longtemps après en mémoire du lecteur. On parlait tout à l'heure des influences, il y en a un que j'ai pas cité et pour coup que c'est pas un auteur mais qui est très important dans ce cas-là, c'est Miyazaki. Moi je pense que c'est le même type d'image que je souhaitais amener et c'est des images qui m'ont vraiment marqué et voilà, c'était un des objectifs vers lequel je tendais là-dessus.
Loïc, le mot rêver, ça vous inspire quelque chose?
Oui, moi ça m'inspire beaucoup, hein. C'est vrai que le rêve, on raconte du merveilleux et le monde en fait dans lequel j'évolue pour Loire ou pour d'autres, enfin pour le prochain roman ou pour d'autres choses, même des nouvelles en fait. Pour moi, c'est un monde qui a presque autant de réalité que celui dans lequel on vit en fait. Et je m'y retrouve. C'est comme si en fait il y avait deux mondes et au moment de l'écriture. Alors il y a des passages où on vit dans un monde, j'ai envie de dire normal, et puis en fait on rebascule dans un autre. Comme si il y avait un miroir et on vit l'intérieur de ce monde, on raconte l'intérieur de ce monde et puis ensuite on rebascule dans le monde normal et ainsi de suite. Moi, ça m'arrive d'avoir, ça m'arrivait et ça m'arrive toujours d'avoir des rêves qui se déroulent dans les mondes dans lesquels j'écris en fait. Et ça m'arrive d'ailleurs parfois au matin de raconter. Alors pas stricto sensu le rêve, mais en tout cas des sensations qui viennent de ce rêve, en particulier sur des nouvelles. Moi, j'ai moins de 2-3 nouvelles qui sont un pur produit de rêve, où le matin, je dis, oh là là, faut vite que je l'écrive avant de l'oublier, parce que l'atmosphère, les personnages, pas forcément l'histoire, mais en tout cas l'atmosphère et les personnages sont issus de ce rêve. En préface de Loire, en fait, moi j'ai repris une citation que j'adore et qui rappelle un petit peu ça, c'est que elle dit, pour réaliser ses rêves, il faut d'abord rêver, en fait. Et j'adore cette citation, parce que c'est vrai que avant tout, ok, c'est bien de travailler, c'est bien de s'y mettre, c'est bien de ainsi de suite. Mais vraiment, si vous voulez réaliser quelque chose, la première étape, c'est tout simplement de rêver, c'est-à-dire de retrouver le petit enfant qui est en vous et qui a envie de franchir les océans, d'explorer les airs, et ainsi de suite. Et si S'il n'y a pas cette première étape, de toute façon, il n'y aura pas les autres, parce que tout le travail, les efforts et ainsi de suite, finalement, comme il n'y aura pas de but en soi, n'auront pas lieu non plus. En fait. C'est vraiment le prérequis.
Ça comprend le cauchemar aussi, le rêve ?
Ça peut. Il y a des visions. Moi, j'ai l'image d'une nouvelle en particulier où j'avais vraiment une vision d'une espèce de société un peu particulière, qui était très aseptisée, mais où... on retrouvait sur un cargo rouillé à quai, on va dire des gens qui n'étaient pas adaptés à cette société. Et cette vision était un peu cauchemardesque, mais c'est vrai que c'était le cadre d'une nouvelle. Et donc oui, le rêve peut être parfois un petit peu difficile, cauchemardesque. Mais bon, l'avantage, c'est que la réalité nous envoie des images tellement horribles que on a toujours de la marge, hein, par rapport à ce qui se fait. Même en ce moment, si vous ouvrez les yeux, vous regardez ce qui se passe, pas forcément très loin, bon, on a de la marge.
Brice, par rapport à Loïc et par rapport à Camille, vous êtes celui qui maniait le plus clairement l'humour, en tout cas, ouais. Ça imprègne vos récits, et un humour qui est souvent quand même assez noir.
C'est vrai.
Est-ce que justement, par rapport à vos lecteurs, alors j'imagine que vous avez des lecteurs fidèles qui, eux, s'en délectent absolument, mais est-ce que ça peut vous attirer aussi quelques foudres ?
Ah ben, on aime ou on n'aime pas, en général. Hein. C'est assez catégorique. Hein. Mais par exemple, j'ai écrit, pour illustrer ce que tu viens de dire, j'ai écrit un roman trash, ça s'appelle... Et la fin se termine comme un roman harlequin. Voilà, donc c'est de l'humour aussi, ça. C'est inattendu. ça m'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, ça serait amusant.
Et du coup, personne n'est content, ni les amateurs d'harlequin, ni les amateurs de trash.
Si, ils sont déconcertés. J'aime bien être déconcerté d'avoir une surprise. C'est important, ça, dans les récits, les surprises. Autant on peut en disséminer, mieux ça vaut. Ça donne une certaine qualité.
J'évoquais au début le bal des iguanes, par exemple, où il y a aussi quand même la manière dont vous dépeignez les personnages est quand même assez violente par moments.
Oui, mais bon, il y en a que je pourrais presque les désigner du doigt quand même. Ils sont à peine caricaturés.
Mais on vous dit pas... mais vous avez pas honte quand même.
Non, on m'a jamais dit ça. Non. Il y en a qui le pensent, sans doute.
Mais vous assumez, pour reprendre le mot
qui est dans le titre. Oui, parce que de toute façon, moi, j'ai toujours une compensation ailleurs. Si j'écris une histoire épouvantable, j'écris aussi des histoires pour la jeunesse, des choses tout à fait différentes. Donc ça me rachète un peu. Je veux dire, oui, je suis comme ça, mais j'ai ça aussi, c'est très différent. Voilà.
Camille Brissot, on est, on l'a dit, dans un univers très onirique, très particulier, très personnel. Mm-hmm. Là aussi, justement, est-ce que il faut une adhésion, il faut aussi peut-être parfois le défendre, cet univers?
Oui, il a fallu le défendre. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qui scientifiquement se tient. Et ça, il y a des puristes qui veulent avoir quelque chose qui est parfaitement... Qui est complètement carré, etc. Et alors moi, c'est pas du tout carré, pardon, un peu dans tous les sens, mais c'est quelque chose que j'aime, cet univers un peu bordélique. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi les gens qui ont besoin d'un univers qui soit absolument détaillé. C'est-à-dire que là, en fait, ça se passe dans un monde qui a été bouleversé par tout un tas de changements, mais ça s'est passé il y a un moment, donc c'est comme ça, point. Et on n'explique pas pourquoi c'est arrivé là. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. C'est un décor, et le décor doit héberger une histoire. Mais après, le pourquoi du décor, bon, ça, c'est une autre histoire. Et ce n'est vraiment pas, voilà, un point d'intérêt pour moi. Mais il y a des lecteurs pour qui c'était important, et du coup, qui se sont sentis sans doute un petit peu lésés là-dessus. Après, je ne peux rien y faire.
Mais est-ce que ce n'est pas à eux, finalement, de l'imaginer, ce qui leur manque ?
J'imagine qu'il y en a... J'imagine qu'il y en a qui n'aiment pas trop forcément imaginer, qui cherchent quelque chose de plus complet dans des romans et de moins elliptique ou autre. Mais voilà, c'est vraiment une question de goût et je comprends complètement.
Et là, sur ce Vagabond désert qui est sorti il y a très peu de temps.
La semaine dernière.
Ouais. Vous commencez déjà à avoir un peu quelques retours qui arrivent.
Oui, j'en ai eu deux. J'ai même pas encore eu le retour de ma famille. Donc, non, c'est encore un peu frais.
Même pas eu le mien, je crois qu'on n'a même pas parlé.
Non, oui, même pas.
Moi j'ai bien aimé. Moi,
ah, j'ai cru que c'était mauvais signe.
Ah non, non, non. Ah non, non, pas du tout, au contraire. Non, 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 moi j'ai voyagé totalement dans cet univers, mais j'avais déjà beaucoup aimé Dresseur de fantômes, donc je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Hein.
Mais c'est vrai que c'est une série qui, pour moi, l'élément clé de cette série, c'est l'aventure, le voyage, l'envie d'en avoir plein les yeux, de découvrir d'autres choses. C'est pas quelque chose de très très fouillé psychologiquement. Donc c'est vrai que pareil, il y a des personnages secondaires qui sont vraiment secondaires. C'est assumé.
Il y a la notion, vous le disiez, d'aventure, oui, qui est vraiment dans le sang. C'est, oui, c'est dit comme ça. Hein. C'est-à-dire que le personnage de Tom, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Il est marqué de ce sceau-là.
Oui, même sans le vouloir, voilà. Même en étant justement plus, en ayant été adopté, donc en ne l'ayant pas dans le sang, ça vient.
Et c'est irrépressible.
Non, c'est irrépressible. C'est même pas une envie forcément. C'est que voilà, il faut le faire. On est entraîné et je pense que c'est ça aussi l'aventure, c'est le fait de se faire entraîner et balloter un petit peu partout jusqu'à comprendre que derrière, en fait, il y avait un grand schéma qui était peut-être dessiné depuis un moment, mais qu'il fallait en passer par toutes ces étapes pour le voir se dessiner à la fin.
Comme l'écriture, parfois.
Exactement comme l'écriture, ouais. Justement, le fait de semer des pistes sans se rendre compte qu'à la fin, on va tout relier. Et ça, c'est peut-être le truc le plus cool quand on écrit et que ça se produit. Le problème, c'est qu'il y a des fois où ça ne se produit pas. Donc, rien ne se relie à la fin et du coup, bah, c'est raté.
Loïc, même question. C'est un univers très particulier aussi, Loar, très personnel. Ça veut dire que parfois, on peut avoir jusqu'à en avoir du mal à en sortir.
Oui, on peut avoir du mal à en sortir. Maintenant, moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Camille. Hein. C'est vrai que on n'est pas obligé. En tant qu'auteur, on ne peut pas se permettre non plus de décrire tout. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait une table ronde justement qui évoquait un sujet qui était un peu connexe à ça. C'est-à-dire que on va prendre un exemple typique, c'est la science-fiction. À partir du moment où vous êtes en space opéra, vous projetez des planètes dans le futur. Bon, à partir du moment où il y a des planètes dans le futur, il y a des voyages. Et à un moment donné, vous êtes coincé parce qu'en effet, il y a la vitesse de la lumière et que ben, si vous voulez faire voyager vos personnages, c'est soit ils voyagent sur 3 siècles, 4 siècles, soit ils passent par des trous de verre, soit il y a de la cryogénie, soit il y a de la magie, enfin il y a toujours quelque chose, quoi. Maintenant, à moins de faire un roman où on va passer 50 pages à expliquer le voyage, l'aspect cryogénique du voyage ou l'aspect mécanique d'un vaisseau qui est construit pour voyager pendant 5000 ans, ce qui est quand même assez rébarbatif et pour l'auteur et pour le lecteur, on est obligé quelque part de passer, moi j'appellerais ça presque un contrat avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé forcément de tout justifier, on est juste obligé de justifier suffisamment pour que l'univers se tienne.
Il faut qu'on se fasse confiance mutuellement.
Voilà, et puis il faut que ce soit, alors c'est un grand mot, mais il faut qu'on ait une vraie cohérence, mais cette cohérence elle n'implique pas, comme dit Camille, forcément de tout justifier. C'est-à-dire que si on décrit un monde à un instant T, on n'est pas forcément obligé de tout expliquer entre maintenant et cet instant T. C'est-à-dire qu'on peut en expliquer une partie. En général, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les romans, mais tout n'est pas expliqué. Alors, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées, qu'on comprend au fil de l'histoire. Il y a des choses qui ne sont pas expliquées, tout simplement, parce que ça n'a pas d'intérêt ou ça n'apporte rien à l'histoire. Et puis après, j'ai utilisé un petit truc, entre guillemets, c'est que pour la partie vraiment technique, pour les puristes, comme disait Camille, notamment sur l'aspect, comment dire, voyage un peu lointain et des fonctionnements aussi d'armes ou de choses comme ça, il y a des annexes, en fait. Donc, à mon avis, je pense à une annexe en particulier. Je pense qu'il y a 10% des lecteurs qui l'ont lu. Donc, c'est en effet, si vous allez la voir, c'est très mathématique, c'est expliqué, c'est matriciel, c'est bon, ok. Très bien. Je pense que 90% des lecteurs n'en ont absolument rien à faire et que ça les ennuie profondément. Mais par contre, ceux que ça intéresse, ben, ils peuvent se replonger dedans. Et ça, quelque part, ça rajoute un petit côté réel, parce que comme c'est une annexe, on a l'impression de se dire, bah, attendez, je suis dans l'histoire, je suis pas dans l'histoire. En fait, vous êtes encore dans l'histoire alors que le mot fin est déjà passé. Voilà, mais bon, c'est vrai que tout n'est pas forcément justifié, en effet.
Ben voilà, on arrive au terme de cette table ronde. On a essayé de soulever un petit peu le voile, de vous montrer un peu l'envers du décor, de vous expliquer par le biais des auteurs un peu ce qui se passe avant que vous ne vous trouviez avec le livre dans les mains. Vous pouvez aller retrouver nos auteurs sous la bulle du livre pour quelques minutes encore. Et puis, parce que pour moi, c'est la dernière table ronde de cette année, j'en profite encore une fois pour remercier tous les auteurs pour leur gentillesse, leur disponibilité. Toute l'équipe, évidemment, des Imaginales, parce que voilà, ils ont encore fait un boulot magnifique. Et puis, surtout cette année, remercier le public. Vous avez été extrêmement nombreux, on a tous été très impressionnés par ça. Et merci de nous faire confiance, merci de venir faire la fête avec nous. Et on espère tous vous retrouver l'année prochaine.